Pitié des Amériques sur RFI, c'est avec Namori Dosso. Bonjour Namori.
Bonjour Edmond et bonjour à tous. Dans votre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, la lutte contre les féminicides au Mexique. Nous irons dans la capitale où un collectif féministe occupe la Commission nationale des droits de l'homme depuis une semaine. Marie Normand est avec nous pour la revue de presse des Amériques. À la une, les émeutes en Colombie, un président péruvien menacé de destitution et les incendies qui ravagent la Californie aux États-Unis. Comment interpréter le rebond de la gourde, la monnaie haïtienne face au dollar américain? Kessner Farrell est économiste, il nous éclairera. Nous ferons le point sur l'actualité des dom-toms avant d'aller au festival Visa pour l'image en France, où la quête d'eau potable à Cuba fait l'objet d'une exposition photo. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Féminicide, ce mot résonne comme un cri d'alarme au Mexique. Selon le quotidien El País, on compte en moyenne 10 femmes assassinées chaque jour dans le pays. Des militantes féministes et des mères de victimes ont décidé de combattre ce fléau. Elles occupent depuis une semaine les bureaux de la Commission nationale des droits de l'homme. Reportage à Mexico, Alix Hardy.
Erika Martinez vit depuis une semaine dans le bâtiment avec sa fille, agressée sexuellement il y a 3 ans sans que la justice n'ait rien résolu.
Cette action est née de notre impuissance. Lorsqu'une autre mère de victime de violence en est venue à s'enchaîner à une chaise pour être entendue, alors que c'est un lieu censé protéger nos droits. Moi, je n'avais plus rien à perdre. Après avoir dénoncé mon compagnon, il m'a frappée et mise à la rue. Cela fait 3 ans que les autorités se renvoient la balle dans mon cas. Maintenant qu'on occupe cet endroit, elles seront bien obligées de toutes nous écouter.
Depuis le début de la semaine, les victimes de violences affluent ici, comme Angélica, venue d'Ecatepec dans la banlieue de Mexico.
Mon ex-compagnon violent est parti avec notre fille. Cela fait 7 mois que je ne l'ai pas vue. J'ai porté plainte auprès de plusieurs autorités, mais je suis désespérée, car tout ce qu'elles font, c'est se moquer de ma situation. Je suis venue ici pour essayer de me faire entendre.
Le président López Obrador a critiqué les intentions des militantes et leur mode opératoire, comme ces tableaux de présidents qui ornaient les murs, désormais barbouillés de peinture, une sourde oreille qui a fait exploser Erika Martinez.
Pourquoi le président s'indigne pour des tableaux et pas quand ma fille de 7 ans est agressée sexuellement?
Des actions de soutien ont été réalisées dans plusieurs états du pays. Au Mexique, plus de 10 femmes sont assassinées chaque jour en moyenne dans la plus grande impunité. Alix Hardy, Mexico, RFI.
15h12 à Paris, 8h12 en Colombie. C'est le moment de retrouver la revue de presse des Amériques. Bonjour Marie Normand.
Bonjour à tous.
Les manifestations ont continué l'année dernière en Colombie. Colère populaire consécutive à une bavure policière.
Nouvelle nuit de peur, titre El Tiempo dans certaines rues de Cali. Pour la deuxième fois, les incidents se sont aggravés avec l'avancée de la nuit, avec l'incendie d'une banque, plusieurs petits postes de police également. Pillage, vandalisme et violence également à Bogota, comme le montre un diaporama en une du site d'El Espectador. L'indignation publique est à son comble, écrit le journal. Outre l'affaire Javier Ordóñez, vous le savez, cet homme qui a reçu des décharges électriques répétées alors qu'il était immobilisé au sol par 2 policiers, eh bien au moins 10 personnes sont mortes lors de ces mobilisations, touchées, selon le quotidien, par des objets à l'usage exclusif des forces de l'ordre.
Au Pérou, une procédure de destitution pourrait être lancée contre le président Martin Vizcarra.
Oui, c'est à la une notamment d'El Comercio. Le Congrès va ouvrir des débats aujourd'hui sur la motion présentée par 6 partis. Les députés devront décider s'ils ouvrent ou non cette procédure en destitution après la révélation d'enregistrements audio qui semble compromettre le président Vizcarra dans une affaire de corruption. Et lui dénonce un complot pour le faire tomber. Tout cela un peu plus de 2 ans après la même procédure contre Pedro Pablo Kuczynski. Là encore, après la diffusion d'enregistrements audio, il avait démissionné.
Direction les États-Unis à présent avec ces incendies monstres sur toute la côte ouest.
Oui, des unes oranges pour une bonne partie des journaux du pays. Le Golden Gate à San Francisco noyé dans ces fumées oranges qui recouvrent l'État de Washington, la Californie et l'Oregon où au moins 500 000 de personnes ont été évacuées. Au moins 15 morts en seulement 24 heures dans ces 3 États. Sur place, la rédaction de RFI en espagnol a joint Joseph Troncoso, directeur des pompiers latinos aux États-Unis.
Tenemos muchísimos incidentes activos ahorita.
Il explique qu'il y a énormément d'incendies qui se sont déclarés au même moment et que les moyens manquent pour s'occuper de chacun d'entre eux. Les flammes ont détruit plus de 3000 maisons en Californie, des localités entières dans l'Oregon, notamment des zones qui abritaient des mobilhomes. Il y en a beaucoup à Rock Valley, explique le Washington Post. Dans ces mobilhomes, il y a de nombreuses familles mexicaines déjà fragilisées sur le plan économique par la pandémie. Le journal suisse est sinistré dans les décombres de leur logement. Quelques poules ont survécu, un vélo d'enfant est récupéré. Le reste n'est que cendres et métal fondu.
Autre sujet, Marie, le vote par correspondance conspué par Donald Trump continue de diviser les Américains.
Oui, un nouveau sondage réalisé par le Washington Post et l'Université du Maryland révèle que si les démocrates sont divisés sur la question, 71% des républicains disent préférer voter en personne le 3 novembre. Le sondage va plus loin, 95% des électeurs de Trump sont convaincus que leur bulletin de vote déposé en personne le jour du scrutin sera compté avec exactitude. Mais seuls 45% pensent que ce sera le cas s'ils votent par correspondance. Ce qui pose question quant à la perception des résultats. Voilà le scénario catastrophe, Namouri. Si les résultats du vote en personne sont publiés le soir du scrutin, comme les républicains semblent beaucoup plus susceptibles de voter de cette façon, eh bien Donald Trump sera en tête. Mais quelques jours plus tard, voire quelques semaines plus tard, lorsque les bulletins de vote envoyés par la poste seront comptabilisés, eh bien l'avance de Trump se réduira. Il pourrait même être dépassé par Biden. Bref, toutes les caractéristiques d'une crise constitutionnelle.
D'ailleurs, Marie, les deux candidats à la présidentielle se retrouvent aujourd'hui au même endroit et presque au même moment.
Oui, c'est assez rare pour le souligner. Joe Biden a déjà croisé et tapé sur l'épaule du vice-président Mike Pence ce matin à Ground Zero à New York. Il ne devrait pas croiser Donald Trump, mais à moins de 3 semaines de leur premier débat, les deux hommes seront effectivement le même jour au même endroit, Shanksville, en Pennsylvanie, là où le vol United Airlines 93 s'est écrasé le 11 septembre 2001. Pour le Washington Post, les attentats du 11 septembre ont visé les villes qui ont façonné les deux candidats, Washington pour Joe Biden, New York pour Donald Trump, renforçant des visions du monde divergentes qu'il propose désormais à l'électorat américain. L'adhésion de Biden aux institutions américaines et aux alliances mondiales contre la méfiance de Trump envers les étrangers et son insistance sur le fait que l'Amérique doit faire cavalier seul.
C'était la revue de presse des Amériques, analysée et racontée par Marie Normand. Merci Marie.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
9h17 à Port-au-Prince, capitale d'Haïti. La gourde, la devise nationale, connaît actuellement une remontée spectaculaire par rapport au dollar américain. Le mois dernier, le dollar américain s'échangeait contre environ 120 gourdes. Aujourd'hui, il ne vaut plus que 95 gourdes. Est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle? L'économiste Kestner Farrell répond aux questions de notre correspondante Amélie Baron.
C'est une mauvaise chose lorsqu'il y a une forte appréciation du dollar par rapport à la gourde, la spéculation à la hausse, mais c'est tout aussi mauvais lorsque vous avez une forte dépréciation du dollar américain par rapport à la gourde, parce que ça va déranger les exportations du pays. On n'est pas trop compétitif sur les marchés internationaux et lorsque votre monnaie s'apprécie, rien qu'avec la République dominicaine qui est à côté, les produits dominicains deviennent meilleurs marchés sur le marché local. Donc voilà, avec tous les problèmes sociopolitiques qu'on avait, on a mis maintenant ce problème financier et ça dérange considérablement l'économie nationale.
Tant au niveau des entreprises, des exportateurs, effectivement, c'est délicat d'avoir cette fluctuation, mais aussi pour les ménages les plus pauvres, tous les acteurs économiques sont impactés, si on peut dire, par cette volatilité du taux de change.
Sachez que plus de 30% de l'économie, le PIB, est dominé actuellement par les transferts de devises. Ça fait plus de 3 milliards de dollars américains. Quelqu'un qui recevait, il y a eu ça quelques semaines, 300, 400 dollars américains, et la multiplication se faisait par 110, 115, et maintenant, ça fait avec moins de 100. Donc, vous comprenez que cette personne se retrouve dans une situation beaucoup plus difficile. Son pouvoir d'achat est affecté en quelque sorte. On voulait une stabilité de la monnaie locale par rapport au dollar, mais avec une telle appréciation de la monnaie locale, et les gens ne savent pas trop bien quelle position se retrouver.
Et cette confusion et surtout cet inconnu de savoir combien vaut la gourde, cela dépend beaucoup du secteur informel de l'économie. La Banque centrale ne maîtrise pas les flux de change dans le pays parce que le dollar se change dans la rue, se change dans les supermarchés, sans que personne ne le sache.
En effet, la Banque centrale, dans sa mission, est responsable de stabiliser la monnaie locale par rapport aux monnaies internationales. Ce n'est que récemment, moins de 2 mois, dans un décret, qu'on a donné à la Banque centrale le contrôle des maisons de transfert. Le type de l'iceberg, c'est particulièrement les banques commerciales. Mais en dessous, il y a beaucoup d'acteurs qu'on les appelle des ONG qui reçoivent également des fonds, qu'on les appelle les supermarchés qui font des transactions, qu'on les appelle en Haïti également la loterie, il y a tous ces acteurs qui sont là. Et c'est le gouverneur de la Banque centrale qui disait, on était tous devenus des acteurs du marché d'échange. Ça crée une situation extrêmement difficile et la Banque centrale essaie de maîtriser cette partie informelle qui devient de plus en plus importante dans l'économie nationale.
Est-ce que s'il y a un meilleur contrôle de cette économie, il y aurait une stabilisation un jour de la gourde à son niveau réel?
Moi, je dis qu'il faut faire très attention en pensant que la dépréciation de la monnaie internationale par rapport à la monnaie locale, c'est une bonne chose. Je prends le cas de la Jamaïque en particulier. La Jamaïque a un taux de change beaucoup plus élevé qu'Haïti, près de 140 $ jamaïcains pour 1 $ américain. Mais la Jamaïque a un taux d'inflation inférieur à 5%. En Haïti, nous avons franchi, au cours du mois de juillet, le niveau de 25%. Vous imaginez, avec beaucoup de gens au chômage, une petite économie qui ne produit pas, avec un taux d'inflation de 25%, c'est extrêmement élevé en quelque sorte. Donc, ce n'est pas la monnaie qui détermine la santé, c'est la production, c'est les investissements. Et les investissements aujourd'hui, même au niveau local, posent problème parce que le gouvernement, particulièrement le président de la République, est en état de choc permanent avec différents secteurs de l'économie. N'en parlons pas d'investissement direct étranger. C'est une économie qui est en train de se contracter. On pourrait avoir plus de 4% de contraction du PIB cette année.
Les explications signées Kestner Farrell, économiste haïtien, au micro de notre correspondante en Haïti, Amélie Baron. C'est le moment de retrouver Benoît Ferrand pour l'actualité des départements et territoires d'outre-mer. Bonjour Benoît.
Bonjour Namoury.
En Guadeloupe, la direction du centre hospitalier universitaire tire la sonnette d'alarme et la directrice de l'Agence nationale de santé lui répond.
Oui, le directeur du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotellon, avait dressé le constat préoccupant d'un système au bord de la saturation. À cause de l'épidémie de Covid-19, faut-il le préciser, actuellement 39 personnes en service de réanimation. Dans sa réponse, Valérie Denux, la directrice de l'ARS Guadeloupe, tente de rassurer. Le territoire, dit-elle, serait désormais placé sous très haute surveillance.
On est en contact quotidiennement ensemble, on travaille depuis des semaines sur la planification de l'organisation du CHU. Bon, c'était important pour lui de signifier que il arrive en butée de sa capacité de réorganisation interne, et ça nous le savons bien. Et donc l'idée c'est d'aller plus loin maintenant dans les travaux que nous avons planifiés déjà, donc en 6 niveaux. Donc ils ont atteint le 4e niveau et on sait très bien qu'à partir du moment où ils ont atteint ce 4e niveau, il faut vraiment qu'on les aide à continuer à prendre en charge les patients. Alors Covid bien sûr parce que c'est immédiatement les plus graves en termes de capacité, je dirais, de dégradation malheureusement. Mais il y a aussi les autres patients et il le dit très bien. Il faut absolument qu'on soit en mesure de faire prendre le moins de retard possible à la prise en charge des autres patients, parce que pendant le confinement, il y a eu bien sûr des retards de prise en charge qu'on s'est employé à rattraper.
Direction maintenant l'île de Saint-Martin, avec un vrai soulagement pour les familles qui habitent la partie hollandaise de l'île, mais dont les enfants sont scolarisés dans la partie française. La fermeture stricte de la frontière vient d'être légèrement assouplie. Correspondance pour la première Guadeloupe à Saint-Martin, Hervé Pédurand.
Depuis mardi, les jeunes Saint-Martinois de la partie hollandaise peuvent à nouveau passer la frontière pour se rendre en cours côté français. Une semaine jour pour jour après la rentrée, la préfète a en partie allégé en leur faveur les contrôles frontaliers en provenance de Philipsbourg, remis en place depuis la fin juillet. L'État continue de penser que les restrictions de circulation entre les deux parties de l'île constituent un atout essentiel pour freiner la circulation du Covid-19. Mais il estime aussi que dans le contexte de la rentrée, des aménagements sont nécessaires pour prendre en compte la situation des élèves français résidant à Sint-Maarten. L'impossibilité pour des enfants et un enseignant à franchir la frontière le jour de la rentrée a provoqué la colère d'habitants, d'élus et de syndicats et une certaine tension depuis autour du point de contrôle de Bellevue. Il faudra tout de même fournir aux autorités plusieurs justificatifs pour obtenir un laissez-passer, le certificat de scolarité de l'élève, sa pièce d'identité et celle des parents accompagnateurs, ainsi qu'une attestation de domicile, des documents à envoyer par courriel à la préfecture qui délivrera en retour l'autorisation de passage.
Bon après-midi, bon week-end.
Et merci Benoît Ferrand, c'était l'actualité des Dom Tom présentée par Benoît Ferrand de la Première Caraïbe. 9h25 sur l'île de Cuba où se procurer de l'eau potable n'est pas chose aisée au quotidien. Dans certains cas, les Cubains doivent prendre leur mal en patience dans les longues files d'attente pour avoir droit à ce droit fondamental. Cette quête pour une eau de qualité est au cœur du travail de Sané Derks. La photographe hollandaise expose ses clichés au festival de photojournalisme Visa pour l'image en France. Le dossier Amérique, c'est avec Muriel Mahalouf.
En 2019, la nouvelle constitution de Cuba a reconnu le droit à l'eau et la responsabilité de l'État de fournir à toute la population de l'eau potable et son assainissement. Mais dans les faits, cet idéal d'un accès à l'eau potable est entravé par un quotidien plein d'embûches. Sanne Derks, photographe hollandaise.
When I saw the problems and the hassling in the street with all the water, everyone was with the baskets.
Quand j'ai vu tous les problèmes, les rues inondées, les gens courant partout avec des récipients et même l'état des pipelines, la tuyauterie au mauvais état qui fait que 50% de l'eau est perdue. Et comment tout le monde essaie de composer avec ça sans moyens. Ce qui est dû aussi à 60 ans d'embargo. Tous ces facteurs m'ont intéressé et j'ai voulu m'y pencher de plus près.
Les photos de Sanne Derks se passent d'explications. Un chariot rempli de bouteilles d'eau sur un tricycle est poussé par deux hommes dans une rue inondée, preuve du gâchis du liquide vital. Des routes éventrées laissent voir les travaux entrepris à La Havane pour remplacer les canalisations vieillissantes. Mais dans la périphérie de la ville, ce sont des camions-citernes qui livrent l'eau aux habitants, comme dans cette autre photo où on voit les gens accourir avec des seaux pour recueillir l'eau d'un de ces camions. Appelé Pipa. Sanne Derks.
Cuba is an interesting place. I mean, if we are speaking about the water problem.
Cuba est un lieu très intéressant. En ce qui concerne la problématique de l'eau, Cuba n'est pas en soi un cas unique puisque les changements climatiques ont un impact partout. Et bien sûr, en Amérique centrale aussi. Mais la manière dont les gens gèrent ce problème dans un pays régi par le communisme depuis 60 ans en fait un lieu unique à photographier. Ce que je montre dans le reportage, c'est comment le droit à l'eau potable est géré dans un pays communiste. Ça donne un regard plus approfondi sur la manière dont les choses fonctionnent et pas seulement par rapport à l'eau.
Ainsi, en suivant le parcours de l'eau à travers l'île, Sanne Derks dresse un portrait de la société cubaine et son inventivité face aux défis quotidiens pour avoir accès à l'eau.
Je parle l'espagnol, donc pour moi c'est facile de communiquer avec les gens. Sur le plan informel, c'est aisé. Les gens veulent vous montrer les choses, vous aider.
Et
en raison de cette situation difficile, les gens sont très forts pour s'adapter, trouver des solutions, et ils sont coopératifs. C'est pourquoi j'ai photographié beaucoup d'ouvriers et pris plein d'images dans la rue. Mais au niveau officiel, ça a été très difficile de prendre des photos. Il faut avoir des tas d'autorisations et de permissions, et c'est extrêmement dur d'avoir un visa en tant que journaliste à Cuba.
Les images de Sanne Derks dénoncent aussi les impartialités dans ce paradis socialiste des Caraïbes, comme cette piscine qui étale scandaleusement son eau claire sur le toit d'un hôtel pour touristes au sein d'un quartier décati de la Havane. L'eau ne fait pas défaut pour tout le monde dans le Cuba communiste.
Le dossier Amérique réalisé par Muriel Mahalouf. Enfin, le festival Visa pour l'image, c'est jusqu'au 27 septembre à Perpignan, dans le sud de la France. Un grand merci à Claude Baptiste à la réalisation, sans oublier Marie Normand, Véronique Guémard et Sylvie Noël du service international de RFI. À partir de 16h, un nouveau journal. Il se sera en compagnie de Florence Tomaso. Mais avant cela, vous avez rendez-vous avec Catherine Fruchon-Toussaint pour Littérature sans frontières. Excellente journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.